Radio Kapi.
À la une, cette embuscade tendue lundi par des présumés combattants Trouvoineo contre les FARDC, le convoi de l'armée qui quittait Mikenge pour Minembwe Centre dans le sud Kivu est tombé dans cette embuscade. Bilan, quelques soldats FARDC blessés et 3 vaches tuées, rapportent des sources sécuritaires. Journée internationale de la jeune fille, c'est aujourd'hui 11 octobre. À cette occasion, la ministre du Genre, Famille et Enfants du Haut-Katanga invite les jeunes filles et la société civile à dénoncer tous les actes discriminatoires aux autorités compétentes de sanctionner les auteurs de ces abus. Lancement hier à Kisangani d'un nouveau projet de renforcement des organisations de la société civile agricole des petits agriculteurs de la filière cacao, huile de palme et du riz. Financé par l'Union européenne, ce projet est exécuté par l'ONG Ricolto RDC. Pour en parler, nous recevons Emmanuel Buirabuiza, responsable de ce programme dans la Tchopo. Madame, Messieurs, bonsoir. Ce journal part du sud Kivu, précisément à Minembwe, dans les hauts plateaux du territoire de Fizi. Un convoi des FARDC ayant quitté Mikenge pour Minembwe Centre est tombé lundi dans une embuscade des présumés combattants Trouvoineo. L'incident est survenu vers 6h du matin à Kalingi, environ 15 km de Mikenge. Récit des faits avec Fiston Ngoma Mayabala.
Au cours des échanges de tirs qui ont suivi cette embuscade, des sources de sécurité renseignent que quelques soldats de FARDC ont été blessés. Cependant, les militaires auraient poursuivi leur route vers Minembwe après avoir repoussé ce milicien. La même source ajoute que 2 heures plus tard, lors du retour de Mikenge, ce convoi de FARDC a été stoppé par une barricade érigée par des habitants sur l'axe allant vers Kalingi. Ceux-ci manifestaient pour demander le remplacement de l'unité de FARDC dans la zone. Le convoi s'est finalement frayé le chemin pour poursuivre sa route. Notez que depuis la mort d'un casque bleu de la MONUSCO, dont des Trouvoineo sont accusés d'en être les auteurs, la zone de Minembwe est marquée par des tensions récurrentes dues à des opérations de FARDC lancées contre ces groupes armés. Ces opérations sont remises en cause par certains leaders locaux qui demandent le changement de l'unité de FARDC, les accusant d'attaquer des civils à Kalingi et Kivumu et de travailler en collaboration avec les miliciens Mai Mai. Les FARDC de leur côté soupçonnent les notables et la société civile d'être proches, voire des bailleurs de fonds pour les Trouvoineo afin de déstabiliser la région. Duvira Fistongo Momayabala, Radio Okapi.
La province de l'Ituri vient d'être dotée d'un plan opérationnel des activités du programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS. Ce plan a été validé hier par le gouvernement provincial et ses partenaires, dont la MONUSCO, ainsi que les forces vives de la province. Le bureau provincial de la société civile de l'Ituri invite les autorités à accélérer ce programme pour la pacification de l'Ituri. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Ce plan a été adopté au terme de 4 jours de travaux qui ont regroupé les experts venus de la coordination centrale du PDDRCS à Kinshasa et leurs collègues de la province. Ce plan met également un accent particulier sur les différents piliers dont la protection de l'enfant, le respect des droits de l'homme pour une prise en charge correcte des groupes armés favorables au processus de paix. Pour la coordination provinciale de la société civile, les autorités doivent accélérer ce processus pour permettre aux populations fatiguées par les conflits armés de retourner dans leur milieu d'origine. Son premier vice-président Jean-Marie Zadri.
Nous avons validé un plan. Avoir le financement de ce plan sera encore une autre étape dont nous ne savons pas si ça sera pour quand. Nous devons vouloir appeler toutes les autorités de se mobiliser pour l'effectivité. La population a déjà marre des abus graves que commettent ces miliciens.
Pour le vice-gouverneur des provinces, ce plan constitue une avancée significative dans le processus de paix en Ituri. Le commissaire divisionnaire Benjamin Alongaboni.
Les groupes armés pensent que le pays PDDRCS va pouvoir donner de l'argent à chaque combattant, alors que c'est un programme de retourner dans les activités d'antan pour pouvoir se lancer dans la vie.
La MONUSCO, pour sa part, promet un appui logistique et financier pour la réussite de ce programme. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Nord Kivu, plusieurs décès sont enregistrés dans le camp des déplacés et sinistrés de Kanyaruchinya, non loin de Goma, dans le territoire de Niragongo. Le président de ce camp lance un cri d'alarme et plaide non seulement pour une bonne prise en charge de ces personnes vulnérables, mais aussi pour le retour de la paix afin de permettre à ces déplacés et sinistrés de retourner dans leur milieu d'origine. Le point avec Bernardine Diambo.
Pour le président du camp de Kanyaruchinya, en espace de 48 heures seulement, deux garçons sont décédés dans ces sites. C'est à suite d'une courte maladie, affirme-t-il. Le dernier, un garçon âgé de 12 ans, est décédé dans la nuit du lundi à ce mardi, tandis que l'autre garçon âgé de 8 ans est décédé samedi dernier. Théo Moussekoura fait un bilan de 13 cas de décès enregistrés durant ces 5 mois dans ces camps, qui abrite les sinistrés de l'éruption des volcans Niragongo du 22 mai 2021. Parmi eux figurent des cas de décès suite à la faim. Toujours selon notre source, les autres seraient morts suite aux maladies hydriques et au paludisme liées à de mauvaises conditions de vie. D'ailleurs, toujours selon lui, ces personnes vulnérables, hommes, femmes, personnes de troisième âge et enfants, passent la nuit dans des écoles à même les sols. Elles sont dépourvues de tout. Ils n'ont pas d'abri et manquent de l'eau potable, hormis la nourriture. Ces cas de décès devenus récurrents devraient interpeller les décideurs afin de voir comment venir en aide à ces personnes vulnérables, a indiqué Théo Moussekoura. Goma, Bernardine Diambou, Radio Okapi.
Le cardinal Fridolin Ambongo a foulé le sol de la ville de Bandundu ce mardi pour la toute première fois. Selon lui, c'est une visite pastorale qui rentre dans un contexte particulier, celui de rencontrer les peuples qui souffrent à la suite des tensions entre communautés, particulièrement dans le territoire de Kwamout au Maïndombe. Il entend découvrir les vraies causes de ces tensions et en trouver des solutions. Irène Mboma pour le reportage.
C'est avec faste que le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, a été accueilli l'avant-midi de ce mardi par la population de la ville de Bandundu, principalement les autorités politico-administratives, les chrétiens catholiques, les élèves des écoles catholiques et autres habitants. Dès son atterrissage à l'aéroport national de Bandundu, ce pasteur a fait savoir à la presse qu'il est venu pour rencontrer ses brebis qui souffraient.
Ce qui m'amène ici, c'est d'abord le souci pastoral. Étant donné le contexte particulier de tensions communautaires, il est un devoir pour le pasteur d'aller vers ces brebis qui souffrent pour essayer de comprendre pourquoi il y a des tensions. Et après avoir écouté, cherché la cause, voir aussi qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour améliorer notre vivre ensemble, sans qu'il y ait toujours des tensions.
Juste après l'aéroport, le cortège du prélat catholique a sillonné quelques artères principales de la ville de Bandundu, qui ont été remplis de foules nombreuses venues pour voir pour la toute première fois un cardinal et chanter à son honneur. Il faut noter que son agenda à Bandundu prévoit aussi une messe qui sera dite mercredi 12 octobre 2022 par lui-même à la paroisse Saint-Hippolyte. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Le monde célèbre aujourd'hui 11 octobre la Journée internationale de la jeune fille. À cette occasion, la ministre du Genre, Famille et Enfants du Haut-Katanga invite les jeunes filles et la société civile à dénoncer tous les actes discriminatoires dont cette catégorie de la population est victime, aux autorités politico-administratives et judiciaires de sanctionner les auteurs de ces abus. Jean Gandou Kabongo, reportage.
Parmi les maux qui rongent la vie de la jeune fille, surtout dans les milieux ruraux, il y a notamment le mariage précoce, la non-scolarisation, les travaux forcés, les viols et autres. Très souvent, la jeune fille subit ce affres avec la complicité des parents. Exemple de Nathalie, habitant dans les territoires de Bukama, province du Olomami. Elle dit avoir été mariée à l'âge de 16 ans. Elle avait été encouragée par sa maman. Quelques mois après, le mari l'a abandonnée enceinte et elle est rentrée en famille. Son enfant a 2 ans. Il n'a jamais vu son père. Fort de cette expérience malheureuse, Nathalie demande aux jeunes filles mineures de s'opposer au mariage précoce et surtout de ne pas accepter le mariage forcé. L'histoire de Nathalie n'est pas isolée. Elle est vécue aussi par plusieurs autres filles, notamment dans les milieux ruraux où le mariage est une voie obligée, quel que soit l'âge de l'homme. Et pour mettre fin au calvaire que vivent les jeunes filles, la ministre provinciale du Genre, Famille et Enfants dans le Haut-Katanga a dans son message interpellé tout le monde. Léopoldine Salila Kondé.
On membres de la communauté dénoncer les abus de toutes sortes dont les jeunes filles sont victimes. Aux parents, de tenir des dialogues francs avec leurs filles afin de les guider pour éviter des situations fâcheuses. Aux jeunes filles, d'éviter des habitudes peu recommandables, de se consacrer aux études pour leur épanouissement et un avenir radieux.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Par ailleurs, la fille de Béni a besoin de stabilité, de soutien et d'accompagnement pour bien s'épanouir. C'est ce qu'on peut retenir de la série d'activités organisées dans la ville de Béni ce mardi à l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de la Journée internationale de la jeune fille. Ces dernières veulent voir les violences faites contre elles cesser pour qu'elles s'épanouissent à tous les niveaux. Stéphanie Mbafumoja est une jeune fille de Béni. Elle s'exprime au micro de Marc Marofimbo.
La fille de Béni, c'est une fille qui est traumatisée par la guerre, qui a subi beaucoup de formes de violences sexuelles et basées sur les genres. Mais malgré tout ça, elle tient debout, elle s'élève, elle milite pour le respect de ses droits, elle s'est créée une place dans la société. J'appelle surtout notre gouvernement à se pencher plus sur la situation que traverse la fille de Béni, parce que si on améliorait sa condition de vie, la fille de Béni pourrait être une fille modèle qui sera une référence dans tous les pays, même au niveau international. J'appelle aussi les femmes, même les hommes, à accorder à la fille sa place qu'elle mérite, à arrêter toute forme de discrimination dont la jeune fille est victime. Aussi aux parents qui continuent à forcer les jeunes filles au mariage à arrêter ce genre de pratiques. Ce sont des effractions qui sont punies par la loi. La jeune fille a besoin de l'éducation. La jeune fille a besoin de l'égalité des chances. La jeune fille a besoin d'un environnement sain pour qu'elle puisse bien s'épanouir.
Direction la province de la Tchopo. La route Kisangani-Ubundu se trouve dans un état de délabrement très avancé, longue de 126 km. Cette route est d'une grande importance économique car elle permet le trafic entre Kisangani et la province du Maniema en passant par la cité d'Ubundu. Jacques Mukonkole nous fait le point.
Parcourir les 126 kilomètres qui relient la ville de Kisangani à la cité d'Ubundu, c'est s'engager sur le chemin de la croix, déclarent certains usagers de cet axe routier. Des bourbiers jonchent la chaussée, rendant ainsi difficile la circulation des engins. En effet, actuellement, au départ de Kisangani, il faut plus de 24 heures pour une moto afin d'atteindre Ubundu ou vice-versa. Alors qu'en temps normal, 2 heures suffisent. Les véhicules qui mettaient 4 heures de route autrefois passent 3 jours en cours de route. Gilbert Bokungu, président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, regrette que les travaux entrepris autrefois se soient arrêtés brutalement, engendrant ainsi les conséquences socio-économiques indéniables.
Nous avons vu les Chinois mal officier route qui s'est plongé dans la même route. Les travaux se sont arrêtés à mi-chemin. Actuellement, il y a les commerçants de Kindu qui ne savent plus, n'est-ce pas, évacuer leurs marchandises. Un état de délabrement vraiment très avancé. Et aujourd'hui, la route, les véhicules ne se plient à atteindre Ubundu. L'économie a sensiblement baissé, d'autant plus qu'il n'y a pas de circulation monétaire.
L'élu du territoire d'Ubundu exhorte le FONER à dégager des moyens financiers nécessaires pour la remise de cette route en état de praticabilité. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Et puis, la province du Sud-Kivu enregistre des contre-performances budgétaires depuis 3 ans. Le gouverneur de province dénonce les détournements des fonds publics par certains responsables des services. Il a dit à Bukavu hier, lors de l'ouverture des conférences budgétaires du Sud-Kivu, Théo Kasingwabidje promet des sanctions sévères aux responsables des services mobilisateurs des recettes qui, dit-il, détournent les fonds. On écoute le gouverneur du Sud-Kivu dans cet extrait choisi par Emmanuel Elameji Wakabedi.
Je travaille en déficit chronique. Il nous faut à peu près 1,5 million de dollars pour fonctionner, voire 2 millions de dollars. Mais la province n'encaisse que 1 million de dollars. Ça montre que les recettes de cette province passent par les poches des individus. Au lieu de prendre la direction du trésor provincial, ça passe par les poches des individus et des responsables. Et dès aujourd'hui, nous prendrons les décisions nécessaires, à savoir sanctionner tout responsable qui ne réalise pas les assignations budgétaires. Les moyens sont détournés. Combien de responsables qui gagnent 500 dollars mais qui achètent de maisons ici, de véhicules de luxe et qui s'enrichissent au détriment de la population? Les recettes de l'intérieur sont détournées, n'arrivent pas à Bukavu. La province, comme je le disais, est en déficit chronique depuis des années. Conséquence entraînant un endettement excessif qui pèse très lourd sur son développement. Le paiement des projets que nous réalisons, c'est uniquement par l'emprunt bancaire. Et même des salaires pour les boucler, nous devons recourir au découvert bancaire. C'est pourquoi j'interpelle tous les services publics de se mettre résolument au travail de mobilisation des recettes.
Actualité Afrique Monde.
Les vagues de chaleur devraient dépasser les limites physiologiques et sociales de l'homme au Sahel, dans la Corne de l'Afrique et en Asie du Sud et du Sud-Ouest. Ceci est contenu dans un rapport publié hier par le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies et la Croix-Rouge. Cette vague de chaleur pourrait causer des pertes en vies humaines, des mouvements des populations et renforcer des inégalités, indique la même source.
L'invité.
Il nous vient de la province de la Tchopo. Un nouveau projet de renforcement des organisations de la société civile agricole, des petits agriculteurs de la filière cacao, huile de palme et du riz a été lancé hier 10 octobre à Kisangani. Ce projet financé par l'Union européenne est exécuté par l'ONG Ricolto RDC. Mais que signifie Ricolto? Quels sont ses objectifs? Et dans quel territoire de la Tchopo ce projet sera-t-il exécuté? Emmanuel Buirabuiza, responsable de ce programme dans la Tchopo, explique dans cet entretien avec Jacques Moukonkole.
Emmanuel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le représentant de Ricolto dans la province de la Tchopo. Que signifie Ricolto?
Ricolto signifie récolte. Ça vient du mot espéranto qui signifie récolte. C'est une organisation qui permet d'accompagner des petits producteurs agricoles à travers le monde. Et c'est là depuis 40 ans que nous accompagnons les petits producteurs agricoles en les connectant au marché, en améliorant leur système de transformation de leur production, en améliorant leur système de commercialisation et en mettant ensemble un système de collaboration multi-acteurs.
Ce sont donc là les objectifs poursuivis par votre organisation?
Oui, les objectifs poursuivis par Ricolto à travers le monde, c'est être dans un monde où la population aura à manger à sa faim à travers une production issue des agriculteurs familiaux. Les agriculteurs familiaux pourraient augmenter leurs revenus à partir de leurs activités en tant qu'entrepreneurs, mais aussi ils pourraient contribuer au développement socio-économique de leur communauté de base.
Qu'est-ce qui vous a motivé à vous installer dans la province de la Tchopo?
Alors, on va dire la province de la Tchopo, c'est une province à vocation agricole. Et depuis l'existence de Ricolto, nous travaillons en RDC il y a 30 ans déjà. Aujourd'hui, nous venons à Tchopo pour pouvoir accompagner ces petits producteurs agricoles qui sont dans les filières des cacao, des riz et des huiles de palme, afin que nous puissions voir les modèles que nous avons développés dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri et du Tanganyika, et que les petits producteurs agricoles puissent quand même accéder aux facteurs de production, qu'ils puissent accéder facilement au marché, qu'ils puissent accéder facilement au financement et qu'ils puissent aussi organiser leurs activités autour de l'agriculture.
En quoi consiste concrètement cet appui?
Cet appui consiste exactement à la professionnalisation des petits producteurs agricoles réunis en organisation de base, en essayant de créer des modèles d'affaires inclusifs qui tiennent compte de la présence de jeunes et de femmes. Cet appui consistera aussi à implémenter des activités qui consistent à développer une agriculture pérenne, une agriculture biologique, afin que nous puissions avoir des produits qui sont favorables à la consommation.
Et quel résultat attendez-vous en fin de compte?
Dans ce programme, nous attendons que nous puissions avoir une population de la Tchopo résiliente face aux méthodes classiques, méthodes ancestrales d'agriculture, l'adoption et la vulgarisation des bonnes pratiques agricoles, l'amélioration des infrastructures de transformation, l'accès aux intrants agricoles de qualité. Nous attendons de ces programmes l'accès aux marchés rémunérateurs. Nous attendons aussi de ces programmes le développement socio-économique de la province de la Tchopo.
Pourquoi vous avez opté pour l'appui aux cultures pérennes plutôt qu'aux cultures vivrières?
Vous savez, aujourd'hui, l'agriculture, ce n'est plus seulement l'agriculture de subsistance, mais aujourd'hui, l'agriculture est devenue une force. Si nous pouvons regarder aujourd'hui les chocs économiques que nous subissons à partir de la guerre qui se passe en Ukraine, vous vous rendrez compte que à partir de cette agriculture pérenne, nous aurons de quoi exporter, notamment les cacao, parce que notre province de la Tchopo a une très très bonne qualité de cacao que nous pouvons exporter et qui peuvent ramener des devises dans notre pays. Si nous voyons le riz, aujourd'hui nous pensons que le riz sera une alternative pour faire face à la situation actuelle qui secoue le monde, dont nous-mêmes, ici en RDC, nous sommes victimes. C'est-à-dire, nous sommes en train de penser que, autour même de cette agriculture pérenne, l'agriculture vivrière aussi pourrait avoir sa place parce que nous allons mettre en place des techniques de production et de transformation qui permettraient aux agriculteurs d'associer les cultures.
Pour terminer, Emmanuel, la province de la Tchopo, où vous vous installez aujourd'hui, compte sept territoires, mais là, vos activités ne seront réalisées que dans quatre entités. Comment vous pouvez expliquer l'exclusion des trois autres territoires?
Bon, quand un programme de développement s'installe, il y a des critères d'études qui ont été effectués. Nous allons, dans un premier temps, travailler avec le territoire des Banalia, Bafouassene, Opala, Isangi et Ubundu, spécifiquement parce que dans ces territoires, nous avons une production à grande échelle pour les cultures concernées, les chaînes de valeur concernées. Et dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent, on pourrait réfléchir comment étendre notre intervention dans la Tchopo.
Emmanuel, merci.
Je vous remercie.
Emmanuel Buirabuiza Mushagalusa, responsable de l'ONG Récolto RDC dans la Tchopo, s'entretenait avec Jacques Moukonkole. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.